Soviéto au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Le teint fleuri, l'air d'un Anglais. Une démarche souple et de larges épaules, un visage allongé, des cheveux blonds qui commençaient à grisonner, de belles mains, le regard humide et tendre, un peu lointain des gens qui boivent, tel m'apparut à l'aise lorsque j'étais enfant.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le fond de l'air est morose en France et ailleurs. On nous le dit, en tout cas, beaucoup. Non sans quelques motifs. Et les sujets de nos dernières émissions n'ont pas été sans refléter cette ambiance. Donc il fallait trouver quelque antidote. Et puisque nous allons régulièrement nous enquérir des écrivains du passé dont on tendrait à minimiser la possible actualité, j'ai pensé que l'inventeur de l'aquarium à verre dépoli pour poissons timides, je veux dire Alphonse Allais, serait l'auteur qui nous conviendrait exactement ce matin. Pas seulement parce que les multiples rééditions de ses œuvres témoignent d'une vitalité qui aurait peut-être surpris ses contemporains et qui tranche sur la quasi-disparition dans les profondeurs des bibliothèques de bien des gloires de son temps, mais parce que cette survivance, la plus tonique qui soit, conduit à s'interroger sur la nature même du rire d'une époque à l'autre, quelque part entre le cocasse et le farfelu, sur ses expressions, ses ressorts, ses efficacités. L'esprit fumiste, au commencement du rire moderne, c'est le titre d'un livre de mon invité, Daniel Grochnowski, professeur émérite à l'université de Paris 7. Il est familier des écrits de la fin du 19e siècle, y compris, et peut-être surtout, des hydropathes, des utistes, des hirsutes, des incohérents, de tous ceux qui méritent, comme il le dit, une notoriété périphérique dans les faubourgs de cette littérature qu'honore d'ordinaire les manuels avec leur gravité et leur conformisme. Une heure pour Alphonse Allais, comme il la mérite.
J'aimais beaucoup Alphonse Allais. C'était un ami de mon père, un ami intime de mon père. Il avait, vous savez, une formation scientifique. Il avait été pharmacien et il comprenait, ce qui était rare, il comprenait un peu le génie scientifique de mon père. Un jour, ma mère nous a amenés au Danemark, mon frère et moi, quand j'avais 2 ans. Mon père est allé vivre chez sa mère pendant ce temps-là. Un jour, mon père descend l'escalier en pantoufles pour aller chercher une boîte d'allumettes. Il est revenu 3 semaines après. Il avait rencontré Alphonse Allais dans l'escalier. Alphonse Allais venait toucher une somme chez un éditeur. Ils ne sont pas rentrés pendant 3 semaines. Et mon père, malheureusement, en partant de chez nous, de notre appartement, avait oublié de fermer un robinet dans la cuisine, si bien que quand ma mère est revenue du Danemark, il y avait 1,50 m d'eau dans l'appartement. Mais alors Allais, c'était un être délicieux et qui avait le culte de l'amitié. Quand mon père et ma mère se sont mariés, il était, avec Coquelin Cadet, garçon d'honneur, je crois. Il faisait enrager le malheureux Bedeau. Il paraît qu'ils ont fait un scandale dans l'église. Il appelait tout le temps Bedeau. Qu'est-ce que tu fais là, Bedeau? L'homme, il voulait les faire sortir. Ma mère était navrée. Ils sont payés la tête du Suisse ou du Bedeau pendant toute la cérémonie. Ma mère était sur des charbons ardents. Mon père s'amusait beaucoup. Alphonse Allais avait un cœur d'or. Et Alphonse Allais, quand mon père est mort, a écrit dans le Chat Noir, ce journal de rigolade, un article extrêmement sérieux sur le phonographe, revendiquant le phonographe pour son ami Charles Cros. Ce que personne dans la presse n'osait faire. Et il l'a fait. Quand Edison est venu en 89 avec son phonographe, il a dit « Mais Edison n'est qu'un plagiaire et c'est Charles Cros, qui est mort l'année dernière, qui a inventé le phonographe. » Il a publié ça dans le Chat Noir, sous sa signature en première page. Et pour imposer ça à Salis, il fallait un certain culot.
Daniel Grojnowski, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé un témoignage du fils de Charles Cross, Guy Charles Cross, un témoignage qui remonte à 1955, extrait de l'émission qui s'appelait « Les rêves perdus », 22 décembre 1955. Vous reconnaissez là votre Alphonse Allais par le truchement de Charles Cross, l'inventeur, le poète qui était son ami.
Le témoignage est précieux. J'apprécie aussi un souvenir de l'âge de 2 ans, qui remonte à l'âge de 2 ans, mais c'est très, très, très remarquable parce que le fils Cross, c'est bien ça, hein,
c'est oui. Oui, c'est le fils de Charles Cross.
Il met l'accent sur un côté qui est fondamental chez Alphonse Allais, je dirais, c'est sa fidélité à la jeunesse. C'est vraiment quelqu'un qui a jusqu'au bout été fidèle à sa 20e année. Et il faut quand même rappeler que la 20e année en France, elle n'est pas spécialement rigolote. C'est les lendemains de la défaite devant la Prusse, la guerre civile, la Commune, un pays qui est à feu et à sang. Et puis alors, le maréchal Mac Mahon et l'ordre moral quand même. On a connu en France l'ordre moral. Or, il y a 2 copains d'Alphonse Allais qui vont s'insurger contre cet ordre moral, contre ce conformisme qui s'installe. Rappelez-vous quand même l'édification du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ en expiation de la dérive des mœurs en France.
Sur la colline de Montmartre.
Où a commencé la Commune. Il y a 2 copains d'Alphonse Allais et il va rester fidèle à ses 2 copains, c'est Sapèque et Charles Cros, jusqu'à la fin de sa vie, et il leur consacre des notices nécrologiques qui sont très 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 émouvante. Et par ailleurs, Alphonse Allais, il est jamais méchant, si vous voulez. Il blague, il rigole, il tourne en dérision, il n'y a jamais de méchanceté. Alors, rapidement, Sapèque, c'est l'illustre Sapèque au quartier latin.
Un drôle de personnage, celui-là.
C'est une sorte de situationniste avant la lettre, si
Eugène
dire,
Bataille.
Qui fout le bordel, excusez-moi, un peu partout, y compris dans les séances des hydropathes, qui s'habille toujours en gentleman très distingué et qui aime provoquer le scandale. Je vous donne simplement 2 exemples des farces et des mystifications de Sapèque.
S'il vous plaît.
En Normandie, il y a des chevaux pelage blanc, et il s'amuse à les peindre des rayures pour faire croire que son cabriolet est conduit par un zèbre. Alors là, évidemment, tous les braves Normands sont épatés. À Paris, vous savez qu'à Paris, on fréquente le quartier latin et on se donne rendez-vous au Boulmiche. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on dit le Boulmiche. Parce qu'on ne veut pas dire Saint-Michel. Il y a vraiment une espèce de violence anticléricale du fait de l'ordre moral, d'ailleurs, qui fait qu'on se comporte comme des énergumènes.
Il faut dire que le boulevard Michel n'était pas très gai à l'époque, on n'avait pas fini de creuser la rue Soufflot. Mais enfin,
peut-être, mais ce que j'aime bien, c'est que le terme boulmiche est resté. Et donc, au quartier latin, c'est des jeunes, c'est une petite élite quand même bourgeoise, c'est pas des fils de prolo. Et Sapèque va, c'est l'homme qui sape, qui crée le scandale. Et un seul exemple, il fait du scandale, on l'amène devant le commissariat de police, et devant le commissariat de police, il garde son couvre-chef, qui est à haute forme à l'époque. Alors, le commissaire lui dit, monsieur, il enlève son couvre-chef, et puis il est tout peinturluré en bleu. Mais qu'est-ce qui vous prend, monsieur ? Ben, il dit, je me mets du bleu pour lutter contre les idées noires. Enfin, vous voyez, ça c'est l'ami de jeunesse et le goût de la mystification.
D'ailleurs, dans le petit musée de 10 mètres carrés qui existe à
Honfleur, je connais pas.
On trouve un certain nombre de témoignages du même genre, et en particulier des boules cuillès peintes en noir pour les gens en deuil.
Oui. La deuxième grande amitié de fidélité, c'est Charles Cros, évidemment. C'est Charles Cros avec lequel, il est fils de pharmacien, aime les expériences de chimie, avec lequel il va faire de véritables expériences, de vraies expériences.
Le fils de pharmacien, c'est précisément notre Alphonse Allais, nous ne l'avons pas encore dit.
Oui, en effet. Et donc,
pharmacien de Honfleur.
Pharmacien de Honfleur, aimant la chimie, aimant les expériences, et consacrant une part importante de son temps, par exemple, à fabriquer des pierres précieuses artificielles, de manière artificielle. Et il est absolument admiratif à l'égard de Charles Cros, parce que Charles Cros a 2 casquettes, si je peux dire. D'une part, c'est l'auteur de monologues et d'un monologue emblématique des fumistes de l'époque,
le fameux
Arensor. Alors, Charles Cros arrive sur scène, ce sont des monologues, hein, c'est l'époque du monologue, on en reparlera peut-être. Il arrive sur scène, il a une échelle, il a une ficelle, il a un hareng au bout, il va monter, il va clouer, etc., etc. Mais ce poème est devenu emblématique pour toute la jeunesse de l'époque, et le Arensor, c'est aussi l'art en sort, c'est-à-dire qu'à partir des galéjades, eh bien, il y a des créations artistiques qui ont lieu. Et donc, Alphonse Allais va admirer à la fois le fumiste auteur du Arensor, il va d'ailleurs l'interpréter lui-même, traduit en anglais, je crois. Et par ailleurs, il est admiratif de celui qui étudie la photographie des couleurs, la communication interstellaire. Il y a tout un aspect scientifique chez Charles Cros qui éblouit Alphonse Allais. Et il y aurait d'autres exemples à donner. Mais ce que j'en retiens, c'est qu'il y a un goût de l'innovation, de la recherche permanente. Alors, il est à la fois touche-à-tout et novateur.
Le paléographe qui a inventé, comme son fils le rappelle avec fierté, inventé avant Edison le disque.
C'est pour ça qu'il y a un prix de l'Académie Charles Cros, pour qu'on ne l'oublie pas complètement.
Fierté française. En somme, vous parliez d'une tentation du désespoir pour cette génération d'après la guerre de 70. Il y a chez ceux-là un effort pour substituer la dérision au désespoir.
Enfin, c'est une position fumiste qui peut déplaire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on aime bien être pour ou contre. Hein, tout est binaire. Hein. On est de droite. Enfin, on est souvent binaire quand même. Enfin, on aime bien prendre des positions et on admire le courage, une prise de position de tel ou tel camp. Le fumiste, au contraire, se retire. Hein. Il ne veut pas participer. Il ne joue pas le jeu, si vous voulez. Et il va tourner tout en dérision. Il y a des moments où ça peut quand même agacer, si vous voulez. Il y a des situations qui sont dramatiques. Hein. Alors, si je fais un mauvais calembour alors que quelqu'un se fait écraser dans la rue, vous voyez, ça on va pas supporter. Or, le fumiste, c'est ça. Hein. C'est vraiment d'abord la dérision, d'abord le jeu de mots, d'abord le second degré. Et évidemment, il choque, hein, il choque une partie du public et partie du public peut s'en amuser.
Un mot sur ses origines, vous disiez qu'il était pharmacien, il arrive de Honfleur, il vient faire des études à Paris, c'est classique dans les manuels de littérature, on voit toujours le père qui souhaite que son fils fasse du droit ou la pharmacie. Lui, on peut dire que étudiant, il a fait l'impasse sur les aspects négatifs, c'est-à-dire à la fois les cours et les examens.
Oui, c'était des étudiants farfelus qui avaient autre chose à faire que suivre les cours de l'époque. Et surtout, il y avait quand même une vie parisienne dans le quartier latin, puis après sur la butte Montmartre avec le Chat Noir, où les jeunes gens se réunissaient dans les tavernes. Jussieu, hein, c'était près de la Halle au vin, donc le vin était un peu moins cher. Donc on se retrouvait entre jeunes gens. Il y avait des monologues, il y avait des chansons, il y avait toute une vie estudiantine, si vous voulez, qui ne prenait pas au sérieux hein, les maîtres à penser de l'époque.
Vous vous interrogez dans vos écrits, Daniel Grojnovski, vous vous interrogez sur un point essentiel. Qu'est-ce qui fait rire à certains moments? Vous évoquez en particulier ce philosophe grec qui serait mort de rire en voyant un âne qui mangeait des figues. On a un peu de peine à comprendre. Est-ce qu'on a autant de peine, vu d'aujourd'hui, à comprendre ce qui faisait rire Alphonse Allais, Sapeck et tous leurs amis et leur public, puisqu'ils vont le trouver, leur public?
Alors, tout est historique et daté, comme vous savez. Et il y a, je crois, il y a toute une partie de l'humour ou des galéjades d'Alphonse Allais qui paraissent un petit peu vieillies aujourd'hui, un peu surannées, enfin, qui sont des documents d'une époque révolue.
Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui sonne présent et ce qui peut toucher notre contemporanéité. C'est le principe d'ailleurs de cette émission.
Alors, malgré le côté daté, quelque chose passe et d'autres fois, l'humour tombe à plat. Moi, je peux vous dire ce que j'aime chez Alphonse Allais, hein, c'est des mauvaises plaisanteries parce que elles sont un peu transgressives par rapport à une certaine, ce qu'on appelle le politiquement correct aujourd'hui. Ces mauvaises plaisanteries, moi je les apprécie. C'est aux antipodes, par exemple, de l'engagement d'Octave Mirbeau. Hein, Octave Mirbeau, bon, il a une période antisémite, mais après, il est le chevalier des nobles causes, si je peux dire.
Nous retrouverons Mirbeau peut-être à l'occasion de l'affaire Dreyfus, tout à l'heure, en parlant de politique.
En effet. Mais Alphonse Allais, au contraire, il refuse de prendre parti. Il n'y a pas de noble cause. Et il va tourner en dérision, et il va faire des blagues à tout propos. Et il devient un peu, parce que c'est un journaliste, il vit de sa plume. Hein, il faut qu'il ponde régulièrement, chaque jour parfois, au moins chaque semaine, un nouveau conte, une nouvelle blague. Et il vit de ça. C'est le professionnel de la rigolade.
Est-ce que vous pensez que ça pourrait annoncer certains moments à Rakiri? Je lis par exemple cette plaisanterie. Les familles, l'été venu, se dirigent vers la mer en y emmenant leurs enfants dans l'espoir, souvent déçu, de noyer les plus laids.
Absolument. C'est l'époque de l'assiette au beurre, c'est l'époque du rire, et avant eux, c'est quand même la lune, hein, la lune, l'éclipse, hein, c'est André Gide. Charlie Hebdo hérite d'une tradition irrespectueuse qui est très très ancienne.
Des exemples.
J'ai cherché deux petits poèmes, on appelait ça des fables express, des fables extrêmement brèves. J'en ai pris deux qui me plaisaient, et puis je me suis aperçu qu'elles étaient profondément misogynes. Donc, ce côté un peu transgressif, si vous voulez, peut aussi amuser le public. Je vous lis le mariage d'une jeune niaise, bête, à ne savoir pas dire la moindre phrase. Cette dinde épousa Gontran de Saint-Omer, qu'elle voyait depuis 20 ans au bain de mer. Moralité, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se case.
Vous nous aviez prévenu.
Et la deuxième, si vous me permettez.
Vous avez, prenez tous vos
encore
risques.
Encore plus brève, prompte réparation d'une erreur. Ce genre de blague, de commis voyageurs, comme disait Alphonse Allais.
Vous prenez beaucoup de précautions.
Bah, parce que
allez-y.
Je me rends compte que ça peut être considéré de très mauvais goût.
Courage.
Prompte réparation d'une erreur. Devenu le mari d'une exécrable rosse, il la tua dès le réveil. Moralité, la nuit porte conseil. Vous voyez, ce genre de plaisanterie un peu quand même dérangeante, si vous voulez, un peu provocante, hein, appartiennent à cet esprit fumiste qui ne cherche pas à plaire, hein, qui cherche à déranger, un peu comme le fait Charlie Hebdo aujourd'hui d'ailleurs.
Vous préférez cette citation, quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos, la fatigue sera vaincue.
Etc, etc, oui.
Alors je voudrais vous proposer un autre témoignage pour mettre en pied notre homme, Alphonse Allais, dans cette émission qui lui est consacrée, Daniel Grojnovski. Il s'agit de Sacha Guitry, qu'il a connu quand il était enfant, et qui en parle au micro de Pierre Lost, le 17 juin 1954. Voici l'ineffable Sacha Guitry.
Il avait du génie pour tirer à la ligne, et ses renvois au bas des pages sont bien, avec ses parenthèses, des chefs-d'œuvre. Et je lui passe la parole à ce sujet. Il écrit « Chaque jour que Dieu fait, et aussitôt il ajoute, et il en fait le bougre. » Il écrit « Des réflexions ingénieuses ou bien personnelles me sont suggérées par une lettre que j'ai reçue la semaine dernière et dont j'ai tenu à constater la parfaite exactitude des faits qui s'y trouvent énoncés. » Et entre parenthèses, il ajoute « Ça m'étonnerait bien que cette dernière phrase fût française. » Il manquait 6 lignes à l'un de ses articles. Le rédacteur en chef du journal lui en fait l'observation. Alors en post-scriptum, il ajoute ceci que rien ne justifiait. Post-scriptum, la dame que j'ai rencontrée hier dans l'omnibus Panthéon-Courcelles et à l'enfant de laquelle j'ai dit « Mon petit ami, si tu ne te tiens pas tranquille, je vais te ficher mon pied dans les parties » et qui m'a répondu « Pardon monsieur, c'est une petite fille » et prié de passer au bureau du journal. Et pour ce qui est de tirer à la ligne et de gagner un peu de place, voici je pense son chef-d'œuvre. Un jour, je traversais la rue Grenetta en pensant à Lucie. Quand je rencontrais, je vous le donne en 1000... Quand je rencontrai Lucie, Lucie, mon sang ne fit pas 100 tours, mon sang ne fit pas 50 tours, mon sang ne fit pas 20 tours, j'abrège pour ne pas fatiguer le lecteur, mon sang ne fit pas 10 tours, mon sang ne fit pas 5 tours, non mesdames, non messieurs, mon sang ne fit pas seulement 2 tours, vous me croirez si vous voulez, mon sang ne fit qu'un tour.
Quelque part ailleurs, Alphonse Allais s'étonne de voir qu'on parle du mauvais sang et du bon sens, et que « sang » est écrit dans le premier cas « S-A-N-G » et dans le second « S-E-N-S ». C'est bizarre, dit-il.
Il fait des tas de rimes, hein, où il joue sur l'orthographe française qui est assez fantaisiste. Quand on parle de la production d'Alphonse Allais, c'est qu'il vit de sa plume et... Il y a un pari des étudiants, des bohèmes, des journalistes, qui est de convivialité. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans les cafés et on se raconte des blagues, hein, des blagues. On les met au point petit à petit. Et il semblerait que dans ces parties de réunions, les soirées d'étudiants, de journalistes, la même plaisanterie circule et petit à petit elle est mise au point. Et Alphonse Allais, qui est payé à la ligne, hein, comme Alexandre Dumas quand il faisait des romans feuilletons, hein, et à un moment il faut remplir les lignes. D'ailleurs, on a des exemples de très nets où il y a du remplissage pur et simple. Il se met à ce que j'appellerais la parlerie. Il s'adonne à une espèce de bavardage intempestive où le moindre calembour, le moindre jeu de mots lui permet d'allonger la sauce.
Oui, on prend une ligne ou deux simplement en disant ho ho, dit-il en mauvais portugais.
Voilà. Et justement, c'est peut-être quelque chose qui peut un petit peu ennuyer aujourd'hui chez Alphonse Allais, c'est qu'il y a du remplissage. Hein. Visiblement, il y a du remplissage. Tout n'est pas de la meilleure eau, si je puis dire. Il est là pour être un amuseur. Et il semblerait que dans les trains de banlieue, la légende le dit, les gens, le matin, se racontaient hein, les contes d'Alphonse Allais ou les blagues d'Alphonse Allais hein, qu'ils trouvaient dans le journal chaque jour ou chaque semaine. Hein. Il y a des combles, par exemple. Hein. Il adorait les combles. Dans le tome 2 des œuvres complètes, il y a deux pages de combles. Hein, comme aujourd'hui, il y a les brèves de comptoir, si vous voulez. Alors, je vous donne un exemple de comble, hein. Le comble de l'économie, couché sur la paille qu'on trouve dans l'œil de son voisin, puis se chauffer avec la poutre qu'on se trouve dans son propre œil. Vous voyez, le comble de la radinerie, si vous voulez, etc., etc. Et il en produisait, hein, il en produisait à gogo. Certaines restent un peu, dans la mémoire, et puis les autres disparaissent du jour au lendemain. Évidemment. Le déchet est considérable hein, chez Alphonse Allais, il faut le dire. Ce qui d'ailleurs met en évidence les merveilles, hein, les trouvailles merveilleuses.
Je crois que c'est lui qui a dit que le comble pour un capucin, c'est de voir monter des capucines à sa fenêtre.
Oui, enfin, une fois qu'on a compris le système, vous savez.
Alors nous ne pouvons pas nous en tenir uniquement, Daniel Grojnovski, à cet aspect du fumisme que vous aimez tant à bon escient, mais il y a aussi quelque chose de peut-être plus profond et de plus littéraire qui explique ça, la présence de notre Alphonse Allais aujourd'hui encore dans l'affection, dans l'adhésion de tant de contemporains. Écoutez donc ce poème morne d'Alphonse Allais, interprété par Philippe Noiret, le grand Philippe Noiret, dans l'émission Allegro du 3 février 1973. Vous me direz si vous l'éprouvez après coup comme morbide ou simplement comme propre à prendre de la distance par rapport au plus sombre de la vie, dans la joyeuseté.
Poème morne, traduit du belge. Sans être surannée, celle que j'aimerais aurait un certain âge. Elle serait revenue de tout et ne croirait à rien. Point jolie, mais persuadée qu'elle ensorcelle tous les hommes, sans en excepter un seul. On ne l'aurait jamais vu rire. Sa bouche apâlie arborerait infréquemment le sourire navrant de ses désabus. Ancienne maîtresse d'un peintre anglais, ivrogne et cruelle, qui aurait bleui son corps, tout son corps à coups de poing, elle aurait conçu la vive haine de tous les hommes. Elle me tromperait avec un jeune poète inédit, dont la chevelure nombreuse, longue et pas très bien tenue, ferait retourner les passants et les passantes. Je le saurais, mais lâche, je ne voudrais rien savoir. Rien. Seulement je prendrais mes précautions. Le jeune poète me dédierait ses productions, ironiquement. Cette chose-là durerait des mois et des mois, puis voilà qu'un beau jour, Eloa s'adonnerait à la morphine, car c'est Eloa qu'elle s'appellerait. La morphine accomplirait son œuvre néfaste. Les joues d'Eloa deviendraient blanches, bouffies, si bouffies qu'on ne lui verrait plus les yeux, et piquetées de petites tannes. Elle ne mangerait plus. Des heures entières, elle demeurerait sur son canapé comme une grande bête lasse. Et des relents fétides se mêleraient aux buées de son haleine. Un jour, que le pharmacien d'Eloa serait sous, il se tromperait et, au lieu de morphine, livrerait je ne sais quel redoutable alcaloïde. Eloa tomberait malade, comme un cheval. Ses extrémités deviendraient froides comme celles d'un serpent, et toutes les angoisses de la constriction se donneraient rendez-vous dans sa gorge. L'agonie commencerait. Ma main dans la main d'Eloa, Eloa me ferait jurer qu'elle morte je me tuerais. Nos deux corps, enfermés dans la même bière, se décomposeraient en de communes purulences. Le jus confondu de nos chairs pétrifiées passerait dans la même sève, produirait le même bois des mêmes arbustes, s'étalerait viride en les mêmes feuilles, s'épanouirait radieux vers les mêmes fleurs. Et dans le cimetière, au printemps, quand une jeune femme dirait « Quelle bonne odeur !» Cette odeur-là se serait confondue, nos deux âmes sublimées. Voilà les dernières volontés d'Eloa. Je lui promettrai tout ce qu'elle voudrait, et même d'autres choses. Eloa mourrait. Je ferais à Eloa des obsèques convenables, et le lendemain, je prendrai une autre maîtresse plus drôle.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Beaucoup des contes d'Alphonse Allais, Daniel Grochnowski, sont faits pour préparer la chute.
Oui, la chute et tout le texte, enfin tout ce poème, c'est un poème, hein, c'est un poème en vers libre. Et en fait, il n'a de saveur aujourd'hui que si on rappelle un peu le contexte symboliste, hein, le Maeterlinck, Péléas et Mélisande, la décadence, la morphine, la vie intérieure, et patati et patata. Or, le brio d'Alphonse Allais, c'est de se déguiser en Maeterlinck et de faire semblant de se mettre dans la peau des autres. Hein. Et ce qui est intéressant chez lui, alors c'est la parodie, hein, c'est l'art de la parodie. Évidemment, la parodie, si vous n'avez pas le modèle à l'esprit, hein, y a plus de parodie. Y a un texte un peu déconcertant. On peut le juger morbide, bien entendu qu'il ne l'est pas, puisqu'il se moque de la morbidité, justement, des décadents. Et là, il y a un point qui est fondamental chez les fumistes, chez Alphonse Allais et chez d'autres, d'ailleurs. Je voudrais m'y attarder deux minutes. C'est quand même le fait que la récréation, c'est aussi de la création. Hein. C'est-à-dire que à partir d'une moquerie, à partir d'un jeu de mots, on crée un univers. Et c'est ça que les surréalistes ont adoré chez lui.
Breton
en
particulier.
C'est évidemment l'insolence, mais c'est aussi la fantaisie, la créativité par le langage. Et je voudrais évoquer quand même brièvement la créativité d'Alphonse Allais au Salon des Arts Incohérents.
Ah,
il y a
voilà,
un Salon
voilà,
des Arts
voilà.
Incohérents qui va durer une dizaine d'années et une fois par an, un dénommé Jules Lévy invite à participer toute personne qui ne sait pas dessiner. Hein. Nul ne sera admis s'il est soupçonné d'avoir quelques notions de peinture ou de sculpture.
Je vous vois venir, effectivement. C'est un des formules célébrissimes d'Alphonse Allais. Vous allez nous les dire.
Dans ce salon, il s'agit uniquement de faire rire le public. Hein. Aujourd'hui, on le regarde d'une autre manière parce que les choses ont évolué depuis 1880 et quelques. Mais ce que fait Alphonse Allais, qui dit d'ailleurs « mon œuvre parlera pour moi », c'est des blagues, hein, des blagues de potage, des blagues de rapin. Je vous donne un ou deux exemples. Hein. Il fait cuire une espèce de terre glaise, il l'expose comme une sculpture et il l'appelle, avec un titre qui fait mot-valise, hein, « pomme de terre », entre parenthèses, cuite. Hein, terre cuite, pomme de terre cuite. Et évidemment, les plus célèbres de ses œuvres sont une feuille blanche hein, qui est accrochée sur une page blanche et qui s'intitule « Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige ». Et l'année suivante, une même feuille rouge. Mais alors c'est intéressant, hein, le format est à l'italienne comme on dit, c'est-à-dire très très long et de hauteur. Et ça inspira de toute évidence Yves Klein hein, lorsqu'il fera certains de ses monochromes. L'année suivante, un rectangle entièrement rouge, récolte de la tomate, par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer Rouge.
Il y a aussi le combat de nègres dans une cave pendant la nuit. Je n'ai pas besoin de vous dire quelle est la couleur, plutôt l'absente couleur.
Et noir, bien entendu.
On a réédité cet album primo-avrilesque.
Puisqu'on est à la radio, je trouve regrettable qu'on ne puisse pas feuilleter aujourd'hui un facsimilé de cet admirable album primo-avrilesque où Alphonse Allais reprend des œuvres qu'il a effectivement publiées à l'exposition des Arts Incohérents, et ça donne un petit volume absolument admirable, hein, qui évidemment pour nous fait penser à toute la vogue, hein, du genre monochrome. Hein,
Franchement, même à la radio, on peut assez bien imaginer ce que sont ces trois œuvres immortelles, rouge, noir et blanche.
Évidemment. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que, et là on est dans l'invention, et on est quand même dans la récréation et la création, c'est que ces productions ne sont pas catégorisées. Ça s'appelle pas des monochromes, hein, ça s'appelle pas des ready-made. Aujourd'hui, ça entre dans des cadres culturels qui sont préétablis. À l'époque d'Alphonse Allais, c'est pure fantaisie, hein, et sans lendemain d'ailleurs, absolument sans lendemain.
Il est aussi le prédécesseur de ces jeunes gens qui, avant la guerre de 14, ont accroché un pinceau à la queue d'un âne et l'ont fait barbouiller. Et qui ont appelé ça, sauf erreur,
coucher de soleil
sur l'Adriatique. Et ils ont signé, à cause d'Ali Boron, Boron Ali. Et naturellement, c'est un canular qui a fort bien marché.
Oui, mais qui est extrêmement réactionnaire, puisqu'il se moquait de la nouvelle peinture. Il faut aussi voir les arrière-fonds idéologiques. Il n'y a pas d'arrière-fonds idéologiques chez Alphonse Allais lorsqu'il fait son œuvre monochroïdale.
Mais enfin, il est mort depuis quelque temps, puisqu'il est mort en 1905. Mais je souhaitais, comme vous, que nous ne réduisions pas Allais à ces formules, évidemment, charmantes, aimables, drôles, farfelues. La nuit tombait, je me suis penché pour la ramasser. Ou bien, comme il faisait chaud, l'affaire transpira. C'est plus facile, tout ça. Déjà, plus fine est l'histoire des deux frères qui se ressemblaient énormément, surtout l'un d'entre eux. Et voici Juliette Gréco, qui chante un texte fameux d'Alphonse Allais où il joue de l'imparfait du subjonctif et du passé simple, dont on ne se lassera jamais.
Oui, dès l'instant que je vous vis, beauté féroce, vous me plûtes, de l'amour quand vos yeux je parie. Sur le champ, vous vous aperçûtes. Fallait-il que je vous vise? Fallait-il que vous me plussiez? Qu'ingénument je vous le dise, qu'avec orgueil vous vous tussiez. Fallait-il que je vous aimasse, que vous me désespérassiez? Et qu'en vain je m'opiniâtrasse et que je vous idolâtrasse. Pour que vous m'assassinassiez.
Il m'intéresse aussi de voir comment vous parliez des parodies, on pourrait dire les mêmes choses, des pastiches. Un pastiche perd son sel si on ne connaît plus l'œuvre de celui qu'on imite, évidemment. Mais il s'appuie sur Baudelaire, par exemple. Il y a un poème sur les filtres, l'histoire d'un jeune homme qui filtre le vin dans une barrique, et immédiatement lui viennent à l'esprit ces vers des Fleurs du Mal. Ah, les filtres, mais écrit évidemment P-H-I-L-T-E-R-S. Ah, les filtres les plus forts ne valent pas ta paresse, et tu connais la caresse qui fait revenir les morts. Et le jeune homme, naturellement, se repose et ne filtre pas son vin.
Il adore le jeu verbal. Hein. François Caradec a réuni tous ses écrits poétiques, entre guillemets.
Caradec, c'est le grand biographe.
Le grand biographe d'Alphonse Allais. Et ça a été repris dans Poésie Gallimard. Hein. Et on voit que là, tous les jeux de langage sont intéressants pour Alphonse Allais. Il va jusqu'à faire des poèmes holorimes, c'est-à-dire que les vers intégralement riment l'un avec l'autre. Il y a des fables, il y a les fables express dont je vous ai lu quelques exemples. C'est un pré-oulipien, si vous voulez. Il joue avec les mots, il joue avec le langage jusqu'à plus soif, au risque de lasser d'ailleurs son lecteur, mais son véritable élément, c'est le langage. Ce sont les mots, avec tous les dérapages, avec tous les ratés, hein, qu'il faut accepter, mais c'est son bain, hein. Il nage dans le langage comme un poisson dans l'eau.
Victor Hugo aussi avait beaucoup aimé les vers olorim, c'est-à-dire qui
riment entièrement. Oui, c'est des jeux de la grande rhétorique, hein, ça vient de...
Galamant de la reine à la tour magnanime, galamant de la reine à la tour magnanime. Je laisse nos auditeurs.
Les grands rhétoriqueurs font... Il y a un retour à la rhétorique, et je dirais qu'avec l'esprit fumiste, il y a un retour à l'art pour l'art, si vous voulez. Le refus de l'engagement, c'est aussi la sacralisation du langage. Nous, on n'y connaît rien, on ne peut pas s'engager, on n'a pas d'idée sur l'affaire Dreyfus, par exemple, mais on est quand même, on a un bien commun, ce sont les mots, hein, les mots, les images, et là, on sait de quoi on parle.
Alphonse allait de l'âme, erre et se fout à l'eau. Ah, Alphonse allait de la mer et se fout à l'eau. C'est un peu tiré par les cheveux, mais...
C'est tiré par les cheveux, évidemment. Et puis ça passe mal à l'oral, parce qu'il faut avoir le texte sous le nez, hein, pour voir qu'on a deux fois les mêmes sons. Georges Perec, hein, faisant ce genre d'acrobatie, hein, des palindromes, etc.
Ou l'hypo, ou nos chers papous dans la tête sur France Culture. C'est bien la même école, et je les salue en passant. Et un des fumistes définit de la sorte le fumisme, une sorte de dédain de tout, de mépris en dedans pour les êtres et les choses, qui se traduisait au dehors par d'innombrables charges, farces et fumisteries.
Il y a dans le fumisme, quand même, il faut se rappeler la société à laquelle on a affaire. Un étudiant, c'est quand même un petit monsieur, hein. C'est une élite qui représente, je ne sais pas, 3% de la population, je dis un chiffre un peu au hasard. Et à ce moment-là, il y a dans le fumisme un certain mépris, hein, de la bohème ou des étudiants à l'égard du bourgeois ou du... Vous voyez, il y a ce côté élitiste. On est entre nous, on se comprend, et les autres ne comprendront pas. Et au Chat Noir, au cabaret du Chat Noir, ce qui est extrêmement étonnant, c'est que les bourgeois viennent, on se moque d'eux, on les mystifie, on les tourne en bourrique, mais ils trouvent ça rigolo, justement, parce qu'ils arrivent à se dédoubler, si vous voulez, être à la fois le bof de service et quand même initié, hein, par la bohème qui les fait entrer dans une espèce d'élite intellectuelle. Et tout le succès du Chat Noir et du journal, l'hebdomadaire, qui est admirable, hein, qui a été reprinté, Dieu merci, on peut le feuilleter encore aujourd'hui assez facilement.
Reprinté, vous dites ? Moi, je dirais imprimé.
Non, moi, je dis reprinté, pourquoi pas ?
Mais nous ne débattrons pas aujourd'hui de l'influence de l'anglais sur notre cher français.
Non, mais justement, notre cher français est fait de tas d'apports divers. Je trouve que reprinté est un terme parfaitement clair, qui ne pose pas problème. De même que je dis parfois il euphémise. Alors, on dit, mais il n'y a pas de verbe euphémiser. Mais tout le monde comprend, hein, et à partir du moment où on me comprend, je suis content.
Je suis bien content aussi parce que je vais pouvoir utiliser le mot de podcast à la fin de cette émission sans me faire taper sur les doigts par beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. Vous parlez de politique, alors venons-y, car la distance que prend Alphonse Allais par rapport à ce qui se passe dans la cité est frappante, et il s'amuse avec les siens à imaginer un personnage qu'il appelle le Captain Cap, qui, pour les élections de 1893, vous savez, celles qui suivent le scandale de Panama, va être présenté, il a un accent américain léger, parce qu'il est d'origine de l'autre côté de l'Atlantique. Et voici un extrait d'une de ses affiches qui est apposée sur les murs de Paris. Elle est lue par Jean-Roger Caussimon, le 1er janvier 1965.
« Jetons donc sans crainte le cri d'alerte, tant qu'il est temps encore. Le vaisseau que nous montons est fait du chêne des vieilles forêts de France. » La sève du sol gaulois circule dans ses flancs. S'il fait haut, radoubons-le et ouvrons l'œil au possoir. Déposons sur l'île déserte de l'oubli les nullités endimanchées qui ont essayé d'entraver notre marche en avant. Jetons par-dessus bord paperasses et registres et avec les ronds de cuir de ces incapables, faisons des bouées de sauvetage. J'ai dit ce que je voulais. Assez causé. Il faut défricher avant d'ensemencer. Défrichons. Lorsque nous aurons enlevé jusqu'au dernier brin d'ivraie, nous verrons refleurir avec plus d'éclat que jamais la loyauté et l'amour de la patrie. Ces deux fleurs symboliques, sans lesquelles sont vains les trois mots inscrits au fronton de nos édifices, liberté, égalité, fraternité. Citoyens, il vous faut un homme d'action, je suis prêt. À dimanche donc, et pas d'abstention. Vive la République, libre et sans bureau.
Alors, complètement désuet, Daniel Grojnowski, cette parodie.
On est un peu dans la logique du discours de comice agricole, hein, sauf que là, on est en campagne électorale, et le capitaine Cap a parodie, au fond, les grands orateurs du temps, c'est avant la télévision, avant la radio, et il imite la démagogie électorale dont on a parfois quelques échos aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans ce genre de parodie, c'est pas seulement les inventions. Hein. Le capitaine Cap, c'est plein d'inventions de toutes sortes. Hein. De mémoire, il propose de diviser la France, non pas en départements, mais en commençant par le midi tout au sud, de remonter à 11h, 10h, etc. Et on arrive à 1h au nord. Mais ça, c'est un petit peu secondaire. Ce qui est intéressant, alors que il y a des crises, hein, très très graves. Hein. La République est attaquée. Il y a les scandales de Panama, il y a l'antisémitisme de Drummond. Vous voyez, c'est une époque où la République souffre beaucoup. Eh bien, le capitaine Cap, Alphonse Allais, ils en rigolent. Hein. Ils ne veulent pas prendre parti, ce que je disais tout à l'heure, ils ne veulent pas s'embarquer dans quelque galère que ce soit, et ils tournent tout en dérision. Et il le fera également au moment de l'affaire Dreyfus, ce qui peut nous choquer un petit peu aujourd'hui, puisque l'affaire Dreyfus, c'est quand même un moment où chacun est obligé, en quelque sorte, de choisir son camp. Hein, ou bien Dreyfus est coupable, ou bien il est innocent. Il est coupable parce qu'il est juif, ou on peut être juif et ne pas être coupable. Or, tout cela, j'entre pas dans le détail qui est très complexe, qui mériterait d'ailleurs une recherche. Ce que je remarque, c'est que les spécialistes, les bons spécialistes d'Alphonse Allais, hein, Kardec, évitent un petit peu ce sujet, parce qu'il a quelque chose de gênant. Dreyfus est publiquement dégradé, hein. Et il y a un long compte-rendu de Daudet, pas Alphonse, Léon Daudet, dans le Figaro, qui raconte cette scène de manière absolument abominable. Et la seule chose qu'on sait, c'est que Dreyfus dit « innocent, innocent ». Il clame son innocence. Or, Alphonse Allais, qui est un peu un touche-à-tout, hein, qui écrit de la poésie, qui écrit des contes, mais qui fait aussi du théâtre, qui fait du roman, il se dit « tiens, voilà quelque chose qui peut intéresser le public ». Et il écrit vite fait, bien fait, une pièce qui va s'appeler « Innocent ». Et qui est une histoire très vaseuse, hein, je ne sais pas, un braconnier qui est injustement enfermé, qui restera en prison, etc., etc. Mais c'est pas fini. Parce que l'affaire Dreyfus continue, hein, il y a J'accuse, hein, d'Émile Zola. Et à ce moment-là, Alphonse Allais, toujours opportuniste, parce qu'il vit de son théâtre, il vit de sa plume, il dit, tiens, mais pourquoi est-ce que je tirerai pas un roman de ma pièce de théâtre? Et à ce moment-là, c'est l'affaire Blaireau. Et ça m'amuse beaucoup quand je lis Kardec qui dit ça n'a rien à voir avec l'affaire Dreyfus, mais bien entendu, on est en plein dans l'affaire Dreyfus. Et justement, vous voyez, de dire, il y en a qui trouvent qu'il est innocent, d'autres qui... Et ce que dit Alphonse Allais, ça n'est pas mon affaire.
D'ailleurs, il écrit quelques jours après le J'accuse d'Émile Zola dans l'Aurore, c'est-à-dire dans le journal du 23 janvier 1898, Alphonse Allais écrit ceci, qui va tout à fait dans le sens de ce que vous dites. « J'ai pris, sur cette question, une attitude que je crois fort sage. Alternativement, je réponds à mes interlocuteurs, « Dreyfus, abominable canaille !» ou bien « Dreyfus, la victime de la plus effroyable erreur judiciaire de ce siècle. » À la fin de la journée, j'ai subi une centaine d'interviews, j'ai répondu 50 oui et 50 non, après quoi je m'endors, la conscience en paix, pour le lendemain, affronter d'identiques épreuves. » Fin de citation. Ce qui frappe au fond à vous écouter et à considérer le cas d'Alphonse Allais, c'est l'éventail large de son talent. Il y a l'homme du canular, l'homme qui annonce qu'il va se présenter à l'Académie française au fauteuil du comte d'Haussonville et on lui dit mais il est vivant. Il dit « je ne suis pas pressé ». Ou bien qui aime aussi collectionner les cartes de visite et aller dans la rue pour marcher sur le pied de bons bourgeois qui passent pour créer un conflit personnel et provoquer un duel. Il donne la carte qu'il a volée à d'autres, et le lendemain, un personnage est stupéfait de voir à sa porte arriver les deux témoins de celui qui a été bousculé. Donc il y a tout cet aspect-là qui fait bouger le trait le calque sur le trait de ce point de vue.
Il est un peu condamné, je dirais, c'est un amuseur public. D'ailleurs, il a une gueule parfaitement sinistre. Si vous regardez, c'est une sorte de Buster Keaton de l'époque. Hein. Et il est un peu condamné à faire rire, quoi qu'il fasse, hein, dans sa vie, dans ses écrits, dans ses propos. Mais c'est un peu un touche-à-tout. Hein. En même temps, il fait rire dans des domaines extrêmement différents. Et c'est pas uniquement un amuseur qui se serait, comment dire, spécialisé dans le conte, dans le comble, etc. L'éventail, il ouvre l'éventail au plus large.
Et que pensez-vous être le plus propre à attirer l'attention, la curiosité, l'adhésion de notre époque?
Vous me prenez au dépourvu. Qu'est-ce que notre époque notre époque, elle aime pas trop la dérision, il me semble. Il y a évidemment des amuseurs publics, hein, mais notre époque, elle aime prendre parti. Il y a des causes sacrées, et il y a une situation qui fait que la plaisanterie n'est peut-être malvenue, hein, comme ces poèmes misogynes entre guillemets que je lisais, enfin qui peuvent nous paraître misogynes. Non, je crois que ce qui est intéressant dans le cas d'Alphonse Allais, c'est le dépaysement, justement, auquel il nous oblige de prendre distance, justement, avec des situations brûlantes, hein, des alternatives cruciales. Hein. On est embarqué, comme dit l'autre. Eh bien, grâce à Alphonse Allais, grâce aux fumistes, ouf, prenons un peu de distance, revenons à une sagesse du langage, hein, et une sagesse de la relativisant les choses. Parce que chez les fumistes, chez Alphonse Allais, ce qui intéresse, ça n'est pas le contenu du message, mais c'est la manière de le formuler. C'est le langage, hein, et il est un maître du langage, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Hein, les bons romans racontent des histoires, si vous voulez. Hein, on raconte sa vie, on raconte comment on a été abandonné, comment on a trompé, etc. Mais chez Alphonse Allais, c'est un simple prétexte, et l'objet de l'écrivain, c'est justement de rappeler que cette pseudo-réalité, elle n'est faite que de langage.
Mais vous avez cité un ou deux noms qui me paraissent dans la droite ligne de cet héritage. On aurait pu évoquer Pierre Dac aussi.
Exactement.
Pierre Desproges.
Exactement.
Le grand Pérec aussi.
Absolument.
Donc c'est une ligne littéraire qui dure. Mais je ne voudrais pas en effet que nous nous quittions sans avoir donné à entendre ce qui vous paraît le plus haut dans l'œuvre d'Alphonse Allais, j'ai bien compris, c'est-à-dire son talent de conteur.
Oui, certainement.
Il y a eu parfois, compte tenu de la manière dont il écrivait, il est arrivé qu'il y ait du déchet, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des œuvres qui vous paraissent... Alors, votre merveille, parfait. Eh bien, voilà un conte que vous avez choisi qui vous paraît une merveille, qui est interprété par Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, un duo fameux à l'époque.
Ils s'en allaient tous les deux, remontant l'avenue de l'Opéra. Lui, un gommeux quelconque, aux souliers plats, relevés et pointus, aux vêtements étriqués, comme s'il avait dû sangloter pour les obtenir. En un mot, un de nos joyeux rétrécis. Elle, beaucoup mieux, toute petite, mignonne comme tout, avec des frissons fous plein le front, mais surtout... une taille!
Invraisemblable, la taille! Elle aurait certainement pu, la petite blonde, sans se gêner beaucoup, employer comme ceinture son porte-bonheur d'or massif.
Et il remontait l'avenue de l'Opéra, lui, de son pas bête et plat de gommeux idiot, elle, trottinant allègrement, portant haut sa petite tête effrontée.
Derrière eux, un grand cuirassier qui n'en revenait pas.
Complètement médusé par l'exiguïté phénoménale de cette taille de Parisienne qu'il comparait dans son esprit aux robustesses de sa bonne amie,
il murmurait à part lui
« Ça doit être postiche. »
Réflexion ridicule pour quiconque a fait tant soit peu de l'anatomie. On peut avoir en effet des fausses dents, des nattes artificielles, des hanches et des seins à rajouter. Mais on conçoit qu'on ne peut avoir d'aucune façon une taille postiche. Décidément non, ce n'était pas possible. Cette taille n'était pas une vraie taille. Il avait beau, le grand cavalier, se remémorer les plus jolies demoiselles de son chef-lieu de canton, pas une seule ne lui rappelait, même de loin, l'étroitesse inouïe de cette jolie guêpe.
Très troublé, le cuirassier résolut d'en avoir le cœur net et murmura « Nous verrons bien si c'est du faux. » Alors,
Se portant à deux pas à droite de la jeune femme, il dégaina.
Le large bancal, horizontalement fouette à l'air, et s'abattit tranchant net la dame en deux morceaux qui roulèrent sur le trottoir, tel un ver de terre tronçonné par la bêche du jardinier cruel.
C'est le gommeux qui faisait une tête.
On s'étonnera pas que ce conte s'appelle « Pour en avoir le cœur net ».«
Pour en avoir le cœur net ». Il y a des contes plus remarquables chez Alphonse Allais. « Pour en avoir le cœur net » est un peu un exemple de sa verve, de son inventivité, parce que c'est une scène qui se passe dans l'ordre banal des choses. Hein. C'est des promeneurs, avenue de l'Opéra, c'est une promenade d'amoureux, si vous voulez. Le gommeux, c'est le petit jeune homme à la mode, hein, et puis il est avec sa fiancée. Et puis il y a derrière un militaire, hein, avec son sabre, et à ce moment-là, on se promène en uniforme et on peut avoir un sabre d'apparat. Or, toute l'histoire que nous raconte Alphonse Allais, qui est complètement absurde, bien entendu, mais elle tient sur un jeu de mots. Hein, elle a une taille de guêpe, hein, avoir une taille de guêpe. Et il suffit de prendre à la lettre une expression qui est purement métaphorique pour que le drame advienne. Hein, et avec des sous-entendus un petit peu salaces, hein, parce que ce sabre, hein, que brandit le militaire qui doit avoir une cervelle comme un petit poids, puisqu'il imagine que la taille de guêpe est postiche, hein, mais ce sabre qu'il brandit pour couper cette jeune fille en deux n'est pas sans sous-entendu sexuel, hein, très,
si c'est
très
vous
fort.
Qui le dites, hein. C'est vous qui le dites, Daniel Grojnowski.
C'est moi qui le dites, et c'est vous qui le répétez.
C'est souvent le principe de prendre quelque chose d'apparemment normal, habituel, et puis tout à coup de faire dériver vers l'inattendu.
Le dérapage, hein, le dérapage contrôlé, le dérapage incongru, la facétie, et tout à coup dans le quotidien le plus familier, le plus ordinaire, advient hein, l'impensable. C'est ça la création, hein, quand je parlais de récréation et de création, ça se tient sans arrêt.
Et puis il joue sans cesse sur les mots en même temps. Oui. Comme vous venez de le dire, il y a ce monsieur Buissonnière qui dirige l'école du même nom et qui va voler l'escalier de l'opéra, un escalier naturellement dérobé.
Parfois, quand Alphonse Allais n'a pas grand-chose à dire, eh bien, il va faire une plaisanterie, il va faire un jeu de mots. Hein. Je cite de mémoire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'adore l'Angleterre. Alors c'est l'époque, hein, entente cordiale, belligérant, etc. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'adore l'Angleterre. Je ne lâcherai jamais la proie pour Londres. Oui. Et puis l'histoire commence à partir de ça. Vous voyez, c'est un conte qui s'appelle Comfort, ou une histoire à bracadabrande d'un narrateur qui cherche des pissotières dans la ville de Londres et qui les trouve pas. Mais vous voyez, ça commence par un jeu de mots. Et puis après, ça va rebondir sur des tas de jeux de mots. Et finalement, l'histoire racontée n'est que le prétexte, hein, à acrobatie verbale. Calembour, jeu de mots, rigolade, vous voyez, dérapage.
Et qu'il suit ensuite souvent Monsieur Bartou perdit son sang-froid. Don Quichotte perdit son sang chaud.
Exactement.
Et en même temps, il aime aussi parfois à jouer du fait qu'il vous déçoit. Par exemple, dans ce cas, Gustave Flaubert, dit-il, avec sa grande autorité et son immense talent, n'osa point insister sur ce qui se passa dans le fiacre de Madame Bovary, puisque vous avez apparemment quelques goûts pour le salace. Mais je vais vous décevoir, Daniel Grojnowski, puisque le propos se termine ainsi. Moi, je suis un type dans le genre de Flaubert, et vous n'en saurez point davantage. Terminons, si vous voulez bien, cette évocation d'Alphonse Allais, de sa modernité, en disant un mot de sa postérité. Il ne suffit pas de marquer que ses ouvrages sont très régulièrement réédités. Ils l'ont été à la Table Ronde, ils l'ont été dans la collection Bouquins chez Laffont. Dès les années 20, nous en disions un mot tout à l'heure, les surréalistes ont marqué de l'intérêt pour Alphonse Allais. Dans son livre intitulé « Anthologie de l'humour noir », André Breton lui fait une place importante. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cet héritage jusqu'à nos jours?
Je ne sais pas si c'était la personnalité que les surréalistes admirait le plus, hein. Il y avait Lautréamont, évidemment, qui venait de loin, à l'avant-scène.
Quand même, André Breton dit « Alphonse Allais excelle à mettre en difficulté l'individu satisfait, ébloui de truisme et sûr de lui ». Il développe une activité, dit-il, terroriste de l'esprit. C'est plus breton qu'Alphonse Allais ?
Oui, ça c'est vraiment du breton tout craché. Cette activité terroriste de l'esprit me paraît une formule extrêmement exagérée pour Alphonse Allais, qui justement était hindou, hein, et qui atténuait, qui arrondissait les angles et qui ne voulait pas, hein, qu'il y ait de conflits aigus. L'anthologie de l'humour noir... D'abord, les textes d'Alec Breton Retien ne sont pas noirs pour un sou. On pourrait en trouver, mais il se trouve qu'un drame bien parisien n'est pas de l'humour noir, c'est de l'humour absurde, ce qui est quand même tout à fait autre chose. Alors, et d'autre part, quand même, l'anthologie, c'est 1940, hein, c'est très tardif. Hein. Et je crois que le mérite d'André Breton, c'est d'avoir attiré l'attention sur un auteur qui n'était pas qu'un écrivain pour commis voyageur, entre guillemets, mais qui était aussi un inventeur, un novateur, quelqu'un qui renouvelait complètement la manière de raconter, hein. Enfin, qui avait décroché complètement du vérisme naturaliste, si vous voulez, hein, qui ne voulait plus entendre parler du réalisme. Et c'est ça qui est commun entre le manifeste du surréalisme d'André Breton et le choix d'Alphonse Allais parmi d'autres d'ailleurs, hein, Charles Cros et d'autres utistes d'ailleurs, mais c'est le refus, si vous voulez, du récit réel, hein, qui raconte des choses vraies.
Le désopilant naît, en somme, de l'absurde. Il y a, oui, parmi ses descendants, évidemment, Raymond Devos.
Absolument.
Et il y a Queneau, il y a le grand Alexandre Vialat, non ?
Et puis avec ce goût du langage parlé qui est introduit dans la littérature, hein, parce que les contes, c'est pas surécrit. Hein, si on prend Villers-l'Isle-d'Adam ou d'autres, il y a une écriture extrêmement élaborée. Alphonse Allais, au contraire, fait entrer le langage ordinaire, parfois le langage parlé, dans la littérature. Alors là, évidemment, Céline, Queneau prendront la relève. Mais c'est une période où, justement, on rompt avec les normes, hein, académiques dans les beaux-arts et avec les normes académiques dans les belles-lettres.
Vous voulez deux gags, si je puis dire, supplémentaires. Il est né le même jour que Rimbaud, le 20 octobre 1854.
Oui.
Et après sa mort, forcément, sa tombe à Saint-Ouen, au cimetière de Saint-Ouen, a été pulvérisé en 1944 par un bombardier de la RAF.
Juste revanche de l'histoire. Puisque vous aimez les concordances de date...
Ça m'arrive, oui.
Il est... je l'espère. Il est mort la même année que a eu lieu la séparation de l'Église et de l'État en France.
Et vous en tirez quelle conclusion, Daniel Grosjeanski?
Qu'il a baigné dans une France qui était radicalement différente de la nôtre et que ses insolences portaient à l'époque et qu'aujourd'hui elles paraissent plus anodines. Avant 1905, on rigolait pas avec les curés.
Eh bien, j'espère que nous aurons donné le goût à ceux de nos auditrices et de nos auditeurs, auditrices aussi, même si vous avez considéré que Alphonse Allais était souvent misogyne, Daniel Grosjeanski. J'espère que nous aurons donné le goût à nos auditeurs et nos auditrices d'y aller voir de plus près. Vous avez, je citais ce livre en commençant, donné un ouvrage qui s'intitule « Au commencement du rire moderne, l'esprit fumiste », paru chez José Corti, il y a déjà quelque temps, l'éditeur de Julien Gracq, paru en 1997, et avec Bernard Sarrazin, vous avez proposé une anthologie tout à fait remarquable qui s'appelle Fumisterie, on y revient toujours, Naissance de l'humour moderne 1870-1914 chez Omnibus, paru en 2011. Vous avez présenté le premier ouvrage recueil de contes qui s'appelle À se tordre, paru chez Flammarion, édition de poche très accessible. Vous avez également Nous avons rendu hommage à l'opus magnum que constitue la biographie d'Alphonse Allais par François Caradec, paru aux éditions Belfond en 1994, qui reste indispensable. Et puis, je recommande aussi, tout juste sorti des presses, l'anthologie qui s'appelle « On ne badine pas avec l'humour d'Allais ». C'est un recueil qui a été préparé par Jean-Pierre Delaune, également chez Omnibus. Alphonse Allais, par lui-même. Vous trouvez naturellement d'autres ouvrages sur notre site, vous le savez, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Vous m'avez autorisé tout à l'heure à employer cette formule Daniel Grojnovski. Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices qu'il est très facile de podcaster. Il suffit de se porter sur notre site et on y arrive très aisément. Qu'ils ne se laissent pas, aucun d'entre eux ne se laisse intimider par la fausse difficulté technique de cette opération. Samedi prochain, nous parlerons du singe, le singe et l'homme. Un fragile dialogue, puisqu'on nous apprend, pour notre chagrin, que les singes sont gravement menacés sur notre planète. Et j'inviterai l'excellent historien des animaux qu'est Éric Baratet. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Guillaume Cotte, une émission réalisée aujourd'hui, et je m'en félicite, par Luc-Jean Reynaud, avec Myriam Guillot à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Clary Monac. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.